France Inter, franceinter.com.
Le scrutin historique du 5 décembre 1965 marquera le succès ou le renoncement de la France.
Ans d'histoire. Si un mois avant l'élection présidentielle de 1965, le général de Gaulle la présentait comme un scrutin historique, c'est que pour la première fois sous la Ve République, les Français allaient choisir eux-mêmes leur président. Jamais, en effet, depuis 1848, un chef d'État français n'avait été élu au suffrage universel. Jamais non plus, la télévision n'avait encore joué un tel rôle dans une campagne électorale. En novembre 1965, les Français pouvaient voir et entendre, parfois pour la première fois, les cinq candidats qui allaient se présenter cette année-là contre le général de Gaulle et provoquer la plus grande surprise de cette élection en le mettant en ballotage.
Par le miracle de la télévision, me voici chez vous.
Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps.
Je suis le candidat des chiens battus.
Mes amis, mes copains, votez pour Marcel Barbu.
Cela n'a pas été simple de parvenir jusqu'à vous.
Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans, c'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. Je ne suis pas un héros de légende, mais un homme parmi les hommes partageant vos préoccupations et vos aspirations.
Michel Vinocq, bonjour.
Bonjour.
Alors si aujourd'hui nous sommes habitués à voir les candidats à la présidentielle à la télévision, en 1965, il y a 42 ans, ce n'était pas le cas. La télévision, certes, était entrée dans les foyers, mais l'opposition n'y avait pas accès. Vous le rappelez dans votre livre, La mêlée présidentielle, la télévision était entre les mains du pouvoir en place, c'est-à-dire du général de Gaulle.
Oui, tout à fait. Alors, il se justifiait en disant que la presse écrite était unanimement contre lui, contre la Ve République, et que, par conséquent, il devait disposer de la télévision, et ajoutons-le, de la radio, parce que toutes les chaînes, y compris les chaînes périphériques, étaient sous contrôle. Donc, ça a été une surprise extraordinaire pour les Français, qui, pour la première fois, voyaient à la télévision. Alors, signalons qu'il y avait, à cette époque, pas loin de 7 millions de récepteurs. Donc, ça fait pas mal de gens, n'est-ce pas? Puisque, pour chaque récepteur, il y a beaucoup... Bon, c'est les familles de 3, 4... Donc, une grande partie de la population, dans les années 60, s'équipe en poste de télévision et regarde la télévision. Or, ils n'ont jamais vu que, comme disait Pompidou, la voix de la France, c'est-à-dire la voix du gouvernement, la voix de l'Élysée.
Et alors justement, les candidats à la présidentielle ont accès à la télévision, ils ont un temps de parole qui est équitablement réparti. Alors pour certains d'entre eux, c'était mais vraiment des gens totalement inconnus. On peut citer Pierre Marcilassi qui était un sénateur de centre-gauche. Et puis alors, l'homme qu'on a entendu tout à l'heure se présenter comme le candidat des chiens battus et qui appelait les Français mes copains alors que personne ne l'avait encore jamais vu, Marcel Barbu. C'était un peu le farfelu de la campagne, Michel Vinocq.
Mes copains, mes frères. Ça. Et alors, dans ses entretiens avec Perfit, de Gaulle parle de lui avec un mépris affectueux, je dirais, n'est-ce pas? Il dit « ce brave couillon », n'est-ce pas? Mais Marcel Barbu n'était pas si couillon que ça, parce que d'abord, bon, qui était-il? C'était un entrepreneur qui avait créé une communauté de travail dans la Drôme et il voulait en parler à des millions de Français. C'était par conséquent une publicité gigantesque. Il a fait ses calculs et il s'est dit que même s'il n'obtenait pas les 5%, faute desquels, n'est-ce pas, il n'était pas remboursé dans ses frais de campagne, eh bien, il aurait une publicité à bon compte. Et naturellement, c'était un précédent. Et dans les élections suivantes, il a été fort imité.
Alors, il a eu 1,2% des voix. Bon, ça, il compte pas beaucoup. Il y a eu trois candidats plus sérieux en face du général de Gaulle. Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui représentait l'extrême droite, qui comptait beaucoup sur la voix des adversaires Algérie-française du général de Gaulle, ou même des anciens pétainistes. Il y avait Jean Le Canuet, on en parlera. Puis alors, le plus important, celui qui va se révéler être le plus important, François Mitterrand, qui se présentait comme le candidat unique de la gauche.
Et il s'agit de savoir qui, du général de Gaulle ou de moi, apportera à la France la stabilité dans ses chances d'avenir. Oh, je sais bien que beaucoup de Français qui m'écoutent se disent « Mais s'il s'en va, qu'est-ce qui va arriver ?» Et j'ai envie de leur poser la question, et s'il reste ? Il n'a pas d'équipe autour de lui pour lui succéder. Il n'a formé personne. C'est le régent d'un royaume sans dauphin, mais qui entretient cependant une cour intrigante et des favoris ambitieux. Il est, pour prendre une autre comparaison, comme un grand arbre au-dessous duquel il ne pousse rien. Nous, de la gauche, nous sommes allés faire nos semis plus loin. Et l'avenir nous appartient.
Alors François Mitterrand, en 65, il était connu pour avoir été plusieurs fois ministre de la 4e République, adversaire du général de Gaulle en 1958, enfin en tout cas depuis 1958. Cela dit, en 65, c'est un homme seul. Comment ce qui s'est fait, comment a-t-il pu se présenter comme candidat unique de la gauche? Comment est-ce qu'il a pu représenter tous les partis de gauche, y compris le Parti communiste, Michel Dinoc?
On assiste à un retour extraordinaire de François Mitterrand qui n'avait pas bonne presse. Tout d'abord, pour beaucoup de gens de gauche, c'était un opportuniste qui avait collectionné les portefeuilles ministériels sous la 4e République. Et puis surtout, il y avait cette fameuse affaire de l'Observatoire, ce pseudo-attentat dans lequel il avait été complice et qui l'avait complètement déconsidéré. Mais il avait pour lui plusieurs atouts. Premièrement, en 1958, il avait été, avec Pierre Mendès France, la grande voix de l'opposition à la 5e République, au général de Gaulle, à cause évidemment de l'armée, n'est-ce pas, de l'intervention de l'armée dans la politique. Et Mendès France, lui, a refusé les institutions de la 5e République au point de ne pas vouloir, de refuser d'être candidat. Autrement dit, en dehors des communistes, la voie était libre pour lui, qui avait été le grand opposant de 1958. Et puis, la difficulté est évidemment d'avoir un accord entre les communistes et les socialistes. Et
il ne fait pas partie, à l'époque, il faut le rappeler, Mitterrand, du Parti socialiste,
alors voilà.
Qui s'appelait la CFIO à l'époque.
Et c'était un atout, parce que aux yeux des communistes, qui acceptaient fort bien un candidat de la gauche, et non seulement ils l'acceptaient, mais ils le voulaient, il ne fallait pas quand même que ce soit un grand chef de parti du Parti Socialiste. Ils préféraient Mitterrand, qui était à la tête d'un petit parti, UDSR. Donc, ça allait très bien. Mais ça n'a pas été évident. Alors, Charles Fitterman raconte dans ses mémoires comment ça s'est passé. Il est allé avec Waldeck Rochet, qui était le secrétaire général du Parti communiste, citer Malesherbes, voir Guy Mollet, le secrétaire, par conséquent, du Parti socialiste. Et il lui a dit, il faut qu'on trouve un candidat. Et je vous le dis tout de suite, nous avons un candidat à vous proposer, dit le communiste. Alors Mollet écoute, et il n'en croit pas ses oreilles, puisque Waldeck Rochet lui dit, nous vous proposons Mitterrand. Et réponse de Mollet, spontanée, « Mais c'est un aventurier !» On pensait encore à l'Observatoire. Et finalement, il a fini par accepter. Mais il faut bien dire que François Mitterrand lui-même, depuis 1962, c'est-à-dire lorsque on a décidé que le président serait élu au suffrage universel, il y pensait.
Alors, vous le rappelez aussi, Michel Vinocq, si les communistes choisissent François Mitterrand, ce qui est pour eux une erreur stratégique quand on voit ce qui s'est passé ultérieurement énorme, c'est que justement, ils s'imaginent, cet homme est tout seul, il est à gauche, certes, mais enfin, il n'est pas socialiste, il peut faire l'affaire. Les communistes eux-mêmes n'ont pas trop envie de se présenter, ils craignent d'avoir de mauvais résultats électoraux. Donc, il fait l'affaire, et puis il va effectivement prendre la tête de cet ensemble, de cette coalition de gauche contre le général de Gaulle. Reste également un autre homme important, Jean Le Canuet, qui lui représente le centre.
Oui, ça a été la surprise, la surprise totale, parce que ce Jean Le Canuet, maire, sénateur de Rouen, président du MRP, du Parti démocrate chrétien.
De 45 ans, très jeune.
Oui, il était pratiquement inconnu du grand public, des téléspectateurs. Et ça a été sa prouesse, disons, que partant dans les sondages, il y avait déjà des sondages, de presque rien, il va arriver à remonter à près de 20%, et surtout après une campagne électorale tout à fait remarquable, au point que Jean-Paul Sartre dira « il a gagné le tournoi télévisé ».
Et puis alors, il y a, on n'a pas parlé de lui, mais c'est le grand favori, évidemment, le général de Gaulle, président de la République sortant, qui fait durer le suspense en se présentant sa candidature qu'à la dernière minute, un mois avant le premier tour, le 4 novembre 1965, avec des mots qui lui seront reprochés.
Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, que l'adhésion franche et massive des citoyens m'engage à rester en fonction, l'avenir de la République nouvelle sera décidément assuré. Sinon, personne ne peut douter qu'elle s'écroulera aussitôt. Ainsi, devant tous les peuples, le scrutin historique du 5 décembre 1965 marquera le succès ou le renoncement de la France vis-à-vis d'elle-même. Vive la République, vive la France!
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous, ouais. C'est vraiment très dommage, toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. Ah, quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants, ouais. Le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras.
Tu le regretteras, Gilbert Bécaud, une chanson écrite en 1965 au moment des élections, et pour ces élections d'ailleurs de 1965, où de Gaulle a prononcé, on l'a entendu, des mots qui lui ont été reprochés. Il disait que s'il était élu, je cite, « l'avenir de la République était assuré, sinon personne ne peut douter qu'elle s'écroulera ». Bref, tout le monde l'a traduit comme « c'est moi ou le chaos ». Et on lui a dit que vous n'offrez aucune alternative.
Oui, l'expression est de Gaston Defferre, le socialiste, qui a trouvé ce discours insupportable, comme beaucoup de gens en France, et la gauche en particulier, qui a donc utilisé cette expression « moi ou le chaos ». Autrement dit, si on ne votait pas de Gaulle, donc c'était la ruine. C'était... Et de toute façon, c'était impensable, il faut bien l'avouer, car nous parlions tout à l'heure du Parti communiste, qui va voter pour Mitterrand. Il ne croit absolument pas possible de battre de Gaulle lors de cette élection. Il faut dire
Les sondages, il y en avait déjà donné à cette époque-là, au ce moment précis, en novembre, 70% d'intention de vote pour de Gaulle.
Vous savez,
donc élu dès le premier tour.
Oui, de Gaulle, ce qu'on appelle la cote de popularité... il est rarement en dessous de 60%. Il n'y a eu qu'une année où il a beaucoup souffert de la grève des mineurs, c'était en 1963. Mais à part cela, il est toujours, comme on ne le verra plus guère, n'est-ce pas, un homme. C'est une statue, c'est un monument de Gaulle, c'est un monument en marbre. On ne peut pas penser qu'on va. Surtout en 1965.
Il n'y a pas que le passé lointain, Michel Vinocq. Il y a la solution
à
l'Algérie, il y a la croissance, même si on en conteste les modalités. Le bilan, même sur le plan économique, est social est plutôt beau.
Oui, alors ce n'est peut-être pas grâce à lui à complètement, mais ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été celui qui a mis fin à la guerre d'Algérie, celui qui a mis fin à la colonisation, qui a assuré une décolonisation de l'Afrique noire sans guerre, n'est-ce pas ? Il a restauré l'État, il a créé cette constitution, cette nouvelle république qui, ma foi, semble plaire à tout le monde. Il a instauré cette élection du président au suffrage universel très populaire. Il y aura 15% d'abstention seulement, c'est-à-dire que c'était un record. Donc, il est indéboulonnable. C'est la conviction de tout le monde.
Alors d'ailleurs, il est tellement indéboulonnable qu'il ne fait pas campagne, n'utilise pas son temps de parole à la télévision. Un jour, Alain Perfit lui dit « Mais enfin, mon général, passez à la télévision comme les autres. » Et quand, pensant à la phrase de Le Canuet se présentant « Je m'appelle Jean Le Canuet », De Gaulle dit à Perfit « Voulez pas que j'arrive comme ça ?» Il dit « Je m'appelle Charles De Gaulle. » Bon, et donc il refuse. Mais alors, mal lui en prend parce que la campagne des adversaires qui, eux, font campagne à la télé, elle marche très bien. Le Canuet fait un tabac. Il part à 2%, je crois, d'intention de vote. Il se retrouve à 16%.
Oui, c'est étonnant parce que, encore une fois, c'est une surprise de voir des gens, des candidats en l'occurrence, pas trop nombreux, qui viennent contester la politique du général de Gaulle, qui viennent contester le général de Gaulle lui-même, les institutions de la Ve République, des discours qu'on n'a jamais entendus à la télévision. Et puis alors, il y a le fait de voir ces visages. Ce n'est plus une abstraction. L'élection présidentielle est une personnalisation de la candidature. Et donc, on peut avoir plus ou moins de sympathie, se sentir attiré pour tel ou tel. Et du coup, De Gaulle perd peu à peu, effectivement, des intentions de vote.
Et se retrouve en ballotage au premier tour. Et il y aura donc un deuxième tour le 19 décembre 1965.
Les Français retourneront aux urnes le dimanche 19 décembre. Ils y retourneront puisque le scrutin d'hier pour l'élection présidentielle n'a pas permis de réunir une majorité absolue sur le nom d'un candidat. Ballotage annonce ce matin toute la presse française. Les résultats de ce premier tour, le général de Gaulle, 43,96%.
Monsieur François Mitterrand, 32,04% des voix.
Monsieur Jean Le Canuet, 15,78%.
Je resterai à la veille du 19 décembre, aussi loyal à l'égard du corps électoral que je l'ai été pendant toute la campagne présidentielle du premier tour. Je maintiens, je confirme, je renouvelle ce que j'ai toujours déclaré, je ne voterai pas pour le général de Gaulle et je demande à mes électeurs de ne pas voter pour lui.
Et c'était Jean Le Canuet, le candidat du centre, refusant d'appeler à voter pour De Gaulle, qui se retrouve seul. Tous les autres candidats demandent que l'on vote pour François Mitterrand, qui est au deuxième tour, hein, puisqu'il était le second, y compris le candidat de l'extrême droite, Tixier-Vignancourt,
effectivement,
qui demande d'appeler à voter Mitterrand.
Oui, il faut comprendre la haine de cette extrême droite à l'endroit du général de Gaulle. Il y a évidemment la vieille haine recuite des anciens pétainistes. Il y en a encore, ils ne sont pas si vieux que cela, après tout. Nous ne sommes que 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne lui ont jamais pardonné, par conséquent, d'avoir désobéi à Pétain, etc. Et puis, il y a la haine de l'Algérie française. Et oui, largement partagée, y compris par des anciens résistants, cette fois, ce qui fait beaucoup de monde. Et Tixier-Vignancourt va donc il va défendre l'idée de qu'on peut être justement de l'Algérie française, on peut être d'extrême droite et en même temps de voter pour Mitterrand.
Alors De Gaulle est mortifié, il a quand même 44% des voix au premier tour, ce dont rêverait n'importe quel candidat aujourd'hui.
Ah oui.
Tellement mortifié d'ailleurs qu'il envisage de ne pas se présenter au deuxième tour alors qu'il y a accès puisqu'il était le premier du premier tour. Et puis finalement, il se décide à faire campagne, à se présenter et à faire campagne dans un dialogue avec Michel Droit à la télévision en se plaçant et en plaçant le gaullisme au-dessus ou en dehors du clivage droite-gauche et en utilisant d'ailleurs une métaphore qui a fait rire beaucoup de monde.
La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, elle veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Alors, il faut le progrès, c'est incarné en principe par la gauche, il faut l'ordre qui est incarné par la droite. Au fond, c'est extraordinaire cette métaphore d'un De Gaulle qui n'a jamais voulu, comme les gaullistes à l'époque, on ne les entend plus beaucoup dire ça aujourd'hui, se classer à droite.
Exactement, il disait aussi, on n'est pas hémiplégique. Il faut se rappeler que De Gaulle a toujours préconisé ce qu'il appelait le rassemblement. Et peut-être avait-il en tête ce que fut l'union sacrée pendant la guerre de 14-18. Il détestait les partis, il détestait l'esprit partisan, et pour lui, par conséquent, il fallait l'union. Il fallait l'union. Et vous savez, récemment, Nicolas Sarkozy s'est dit incarner la droite républicaine, mais ce n'est pas le cas de Chirac. Et aucun gaulliste ne pouvait accepter d'être à droite. Ils étaient au-dessus
même
de la droite.
Même à l'Assemblée, ils refusaient d'être mis à droite.
Exactement. Et... Lors des premières élections législatives, le parti gaulliste s'est réparti de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche et au centre aussi. Donc, refus de ce clivage gauche-droite.
Puis c'est un De Gaulle plus humain aussi dans cet entretien très long qu'il a fait avec Michel Droit à ce moment-là. Et puis c'est un De Gaulle qui finit évidemment, d'ailleurs tout le monde s'en doutait, ça n'a surpris personne, à être élu évidemment au deuxième tour de la présidentielle le 19 décembre 1965.
France Inter, il est 8h, Interactualité.
Le général De Gaulle réélu président de la République avec 54,66% des suffrages exprimés contre 45,34% à M. François Mitterrand. Résultat encore provisoire et officieux.
J'aurais aimé pouvoir adresser au président de la République, élu en ce 19 décembre, mes voeux de réussite. Mais la conviction que j'ai que cette élection est contraire aux intérêts de notre pays ainsi qu'à l'avenir de la démocratie me l'interdit. Je me réjouis de l'union de la gauche qui m'a permis de lutter pour la République en ce deuxième tour de scrutin. Je remercie les Républicains du concours qu'ils m'ont apporté et je les appelle à poursuivre le combat sans trêve ni répit pour leur idéal et jusqu'à la victoire.
Et c'était François Mitterrand le 19 décembre 1965. Il est battu par le général De Gaulle, mais ça, c'était prévu. Et on a le sentiment, vous le dites en tout cas Michel Vinocq, c'est plutôt un homme satisfait et qui prend, on vient de l'entendre, rendez-vous avec l'avenir.
Effectivement. Et...
Parce que là, c'est le point de départ, la première marche qui va le conduire 16 ans plus tard à l'Élysée.
Exactement. Il s'est positionné, comme on dit. Il devient effectivement le leader de la gauche. Alors, il lui suffira maintenant, enfin, ça sera assez difficile, mais enfin, de se porter à la tête du Parti Socialiste, ce qui sera fait donc en 1971, 6 ans plus tard. Il faut dire que les choses ont été retardées. L'union de la gauche a été retardée par 1968, qui a semé évidemment une grande turbulence dans les rangs de la gauche. Mais cette élection de 65 a posé effectivement François Mitterrand au premier rang de la gauche et de l'union de la gauche. Il en profitera en 1981.
Il devient l'alternative en fait la plus crédible en face du général De Gaulle ou de ses successeurs. Autre conséquence importante, c'est la consolidation des institutions. On n'a pas eu le temps de le rappeler, Michel Vinocq, mais elles étaient quand même contestées, en tout cas par la gauche. En 1958, vous l'avez dit, Mitterrand s'y était opposé. Il parlait même d'une dictature, parlant de la Ve République. À partir de ce moment-là, on ne conteste plus guère des institutions, d'autant plus que ni même la présidence élue au suffrage universel, puisque François Mitterrand s'est présenté après avoir critiqué ce mode d'élection.
Oui, parce que les hommes de gauche ont fini par comprendre que ces institutions pouvaient profiter à la gauche elle-même. Ce n'était pas le cas de Pierre Mendès-France, comme je l'ai dit, qui a toujours refusé les institutions de la Ve République. Mais François Mitterrand a bien vu que grâce
notamment à l'élection du président au suffrage universel, il forcerait une union de la gauche, il l'amènerait les communistes à faire l'union avec les socialistes et que, à ce moment-là, tout devenait possible. Alors que la gauche est tellement divisée historiquement parlant, c'est cette élection au suffrage universel qui lui permettait, à cette époque, d'être unie.
Mais pour ce qui concerne la gauche, oui, mais de façon générale pour les Français. Vous le rappelez aussi, Michel Vinoc, cette élection a passionné les Français.
Passionné, oui. Et elle est devenue l'institution de la Ve République la plus populaire. Parce qu'il faut comprendre qu'avant cette élection, l'électeur français, contrairement à l'électeur anglais ou allemand, etc., quand il mettait son bulletin dans l'urne, il ne savait pas pour quel chef de gouvernement il allait. Et il votait, il ne le savait pas. Parce que nous n'avons pas en France, comme dans chez nos voisins, de grands partis organisés dont le leader, s'il est vainqueur, devient systématiquement le chef du gouvernement. Alors, avec cette élection, pour la première fois, on pouvait se dire « je mets un bulletin et si je gagne, j'ai élu le chef de l'État, le véritable chef du gouvernement ».
Il y a eu 15% d'abstention seulement.
Oui, ça a été passionnant d'un début à l'autre. Et puis, il y avait tellement de nouveautés. Vous savez, cette alliance entre socialistes et communistes, qui est devenue par la suite familière, c'était pas du tout évident. Il y avait la guerre froide. Comment penser que communistes et socialistes s'allieraient ? Ben, ils l'ont fait parce qu'ils avaient un ennemi commun, qui était le général de Gaulle. Mais ce qui est surprenant, c'est que François Mitterrand, mais là j'anticipe un peu, quand il sera vainqueur, il ne changera rien. Il ne changera rien parce que malgré toutes les critiques qu'il aura faites à la Ve République, il trouvera que le système lui va très bien.
Merci Michel Vinoc. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre qui rappelle toutes les élections présidentielles de la Ve République, La mêlée présidentielle, un livre passionnant qui vient de paraître aux éditions Flammarion. À lire également l'UDSR, c'était le parti de François Mitterrand avant cette élection, ou La jeunesse de François Mitterrand d'Éric Duhamel, publié aux éditions du CNRS, et puis Histoire des campagnes présidentielles de Philippe Valode, récemment paru chez HC Éditions. Vous avez pu entendre une archive extraite du documentaire Les présidentielles, les surprises de l'histoire, diffusée sur la chaîne Histoire. Retrouvez ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. Puis vous avez été nombreux à nous écrire au sujet des difficultés que vous rencontrez pour podcaster notre émission. Nous nous en excusons et nous essayons d'essayer de résoudre ce problème. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Loïc Frapsos. Documentation Emmanuel Fournier et Claire Destacan, une réalisation de Anne Comilac. La semaine prochaine, dans 2000 ans d'histoire, lundi, il y a 60 ans, une tragédie oubliée, l'insurrection de Madagascar. Mardi, un écrivain engagé né il y a 100 ans, Roger Vaillant. Mercredi, Champollion. Jeudi, 1962, les pieds noirs quittent l'Algérie. Et enfin, vendredi, la suite de notre série spéciale présidentielle en partenariat avec Le Monde de hors-série, l'élection présidentielle de 1974.